Radio Prague, les informations.
Les Tchèques quittent la capitale de la Géorgie, relèvent d'un groupe de spécialistes de l'armée tchèque en Afghanistan. Bilan tragique sur les routes et les chemins de fer tchèques. Tous les Tchèques qui le désirent quitteront ce lundi la capitale de la Géorgie, Tbilissi. Selon l'ambassadeur tchèque Ivan Yeschab, après l'évacuation de 30 Tchèques dimanche, il en reste encore 43 sur la liste de départ. Tous les citoyens tchèques vont bien et seulement 22 d'entre eux utiliseront les services de l'ambassade. Les autres resteront ou partiront par leurs propres moyens. Le groupe de spécialistes de l'armée tchèque, OML, de l'héliport militaire de Přerov, comptant 8 personnes, a donné des cours de pilotage et de formation technique aux militaires afghans depuis le mois d'avril à Kaboul. Il est rentré en Tchéquie la semaine dernière et dans le cadre des missions internationales, un nouveau groupe vient de partir pour la capitale afghane. La semaine dernière a de nouveau été une semaine noire sur les routes tchèques avec 28 morts dans des accidents de la route. C'était seulement un mort de moins que lors de la semaine la plus tragique, celle du 21 au 27 juillet. Les chemins de fer ont aussi vécu une mauvaise semaine avec le très grave accident de Studenka quand un train Eurocity a percuté à pleine vitesse une construction en acier servant à la réparation d'un pont. L'accident a fait 7 victimes et le trafic n'a été renouvelé que sur 2 voies des 5 qui traversent la localité. La moisson continue dans toutes les régions de la République tchèque. Les rendements à l'hectare des céréales sont plus élevés que l'année dernière. La moyenne est de 5,14 tonnes à l'hectare. C'est l'avoine qui affiche la plus grosse hausse. Dans les régions un peu plus en altitude, il reste encore dans les 40% des champs à moissonner, alors qu'en plaine, la moisson est pratiquement terminée. Les Verts vont de nouveau présenter un projet d'amendement au code de la route. Ils proposent que les camions soient interdits de circulation sur les autoroutes et nationales le vendredi et pendant tout le week-end. Actuellement, les routiers sont soumis à une certaine limitation seulement. La violation de cette interdiction serait sanctionnée plus sévèrement et ce serait le propriétaire du camion qui paierait et non pas le chauffeur. L'amende pourrait s'élever jusqu'à 1 million de couronnes. En sport, la République tchèque a déjà remporté 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques de Pékin et cela la place, au classement provisoire bien sûr, 4e. En tennis, le meilleur tchèque Tomáš Berdych a passé le premier tour, tout comme sa collègue Iveta Benešová. Elle rencontrera l'américaine Venus Williams au 2e tour. 3 autres tchèques et ce lundi malheureusement une 4e, Klára Zakopalová, n'ont pas passé le premier tour. La météo nous annonce un temps assez capricieux, un peu comme ces derniers jours d'ailleurs. Des températures qui pourront être élevées pendant la journée et pourront monter jusqu'à 30 degrés, mais aussi des averses, des orages locaux et surtout du vent. La nuit, attention, les températures seront beaucoup plus basses, surtout en montagne. En effet, il faut bien se rendre compte que nous arrivons déjà à la mi-août, donc le soleil ne tape pas aussi fort pendant la journée. Les journées sont moins longues, mais cela ne nous empêche pas de souhaiter une bonne fête au Klára le 12 août, selon le calendrier tchèque. C'était Alain Slivinski avec le bulletin d'information. Je vous souhaite une très très bonne écoute de la suite du programme en langue française de Radio Prague.
Faits et événements en République tchèque.
Alexis Rosenzweig.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de notre première émission de la semaine, une émission dans laquelle on reviendra d'abord sur le tragique accident de train qui a fait 7 morts dans le nord-est du pays vendredi. Le Caucase est à nouveau le lieu d'un conflit armé. Prague évacue ses ressortissants des zones touchées par les combats et demande l'organisation d'un sommet européen. Plus de détails dans un instant. Et puis avant de passer au sport, avec les Jeux Olympiques, on parlera photo avec une expo dans l'ouest de la Bohême. Le trafic ferroviaire a partiellement repris dimanche soir à Studenka, en Moravie du Nord, où un accident d'un train Eurocity provoqué par l'effondrement d'un pont en reconstruction a fait vendredi 7 morts et 67 blessés. Les premiers éléments de l'enquête démontrent que la faute serait à chercher du côté de la société qui réparait le pont au-dessus des voies. Plus de détails sur cet accident avec Jarka Gisubelova.
Les causes de l'effondrement du pont en reconstruction datant de 1961 font l'objet d'une enquête de la police et de la compagnie tchèque des chemins de fer. L'expertise prendra des semaines, mais les enquêteurs soupçonnent déjà ce qui a pu être la cause de la chute du colosse métallique. Jiří Jicha, enquêteur de la police de République tchèque.
Selon la version principale, il y a eu des manquements d'ordre technique lors de la reconstruction du pont. Concrètement, une insuffisance de la construction statique qui soutient le pont.
De nouveaux éléments sur cet accident ont été révélés après l'examen de la boîte noire. Grâce à sa réaction rapide, le conducteur qui a survécu à l'accident a sauvé la vie à des dizaines, sinon des centaines de passagers du train international reliant la ville polonaise de Cracovie à Prague. À 300 mètres du pont, il s'est aperçu qu'il commençait à s'effondrer sur les rails. Il a freiné d'urgence et ralenti ainsi la vitesse du train de 134 km à l'heure à 90 km. Puis il est allé se cacher dans la salle des machines de sa locomotive. 6 secondes plus tard, le choc s'est produit. La locomotive a heurté le pont. Les 3 premiers wagons sont passés par-dessus elle et les autres ont déraillé. De nombreuses unités de sauvetage sont venues en aide aux gens coincés dans les wagons déformés. Le premier ministre tchèque, Mirek Topolánek, qui s'est rendu sur les lieux de l'accident, ainsi que son homologue polonais, Donald Tusk, appréciaient le travail des sauveteurs. Le dernier blessé a été sorti des débris et transporté à l'hôpital 2 heures après l'accident. Les victimes sont 3 femmes et 2 hommes de nationalité tchèque, une polonaise, un ukrainien. Parmi les blessés, l'une des plus dramatiques est l'histoire d'une petite fille transportée à l'hôpital sans parents et sans identité. Son père l'a enfin retrouvée dimanche soir. À l'aide d'un test ADN, on a établi dans la nuit de samedi à dimanche l'identité de la dernière victime qui demeurait inconnue, une femme de 29 ans de la ville d'Ostrava. 33 personnes étaient toujours hospitalisées ce lundi. Beaucoup en garderont des séquelles toute leur vie, comme un jeune garçon qui s'est vu amputer les 2 jambes. La compagnie des chemins de fer va procéder sans tarder au dédommagement des victimes. Andrzej Kubala, son porte-parole.
Une somme de 240 000 couronnes, environ 10 000 euros, est prévue pour chaque membre de la famille des victimes, les époux, les parents, les enfants. Pour les blessés, le montant variera en fonction du nombre de jours passés à l'hôpital et des interventions subies.
Il ressort des dépositions des témoins qu'une panne ou une mauvaise sécurisation d'une construction hydraulique qui devait poser le pont à sa place serait fort probablement à l'origine de son effondrement. La firme Bögl Chrysler, qui a obtenu la commande, ainsi que le fournisseur général, la société de construction d'Ostrava, Odess, se sont refusés à tout commentaire. Les tractions trolley n'ont pas encore été renouvelées. Le trafic a pourtant repris sur le lieu de l'accident. Le premier train rapide, Chopin, y est passé dimanche vers 2 heures du matin, soit 40 heures après l'accident.
Les appels répétés de la communauté internationale à la cessation des hostilités dans le Caucase n'ont pas encore suffi. La Géorgie et la Russie s'accusent mutuellement de porter la responsabilité des combats, notamment en Ossétie, dont la partie sud, vous le savez, fait partie du territoire géorgien. À Prague, le ministère des Affaires étrangères a lui aussi appelé toutes les parties intéressées à mettre un terme aux hostilités. Et on écoute tout de suite le chef de la diplomatie tchèque, Karel Schwarzenberg.
Nous sommes toujours de l'avis que l'action militaire menée du côté russe est inacceptable. Pour l'instant, nous sommes en contact avec nos partenaires de l'Union européenne. Nous adopterons une position claire après la rencontre avec le ministre français, Bernard Kouchner, qui sera de retour de Tbilissi et de Moscou.
Août 68, août 2008, 40 ans après l'écrasement du printemps de Prague, le président géorgien Mikhail Saakashvili a estimé que la Géorgie était un pays épris de liberté subissant une attaque en comparant la situation actuelle à l'arrivée des chars en Tchécoslovaquie en 1968. Et pour Karel Schwarzenberg, cité par sa porte-parole, il s'agit bien d'une triste coïncidence. Fin de citation. Quelques dizaines de Tchèques se trouvaient sur le territoire géorgien au moment de l'éclatement du conflit. Une partie d'entre eux a déjà été rapatriée grâce à un avion polonais vers Varsovie via Erevan, la capitale arménienne. On écoute tout de suite Teresa Eliashova du consulat tchèque en Pologne.
Sur la liste officielle du ministère des Affaires étrangères polonais, il y a 27 Tchèques, dont 7 sont arrivés lundi. Un avion spécial repart ce lundi soir pour Erevan et on nous a promis que ceux qui restent feraient partie du convoi. Il n'est pas à exclure que le nombre de Tchèques augmente d'ici là. J'ai même entendu qu'il pourrait y en avoir une centaine. Ils devraient atterrir à nouveau ici, à Varsovie.
Et je vous propose d'écouter l'un des Tchèques arrivé lundi matin sur le tarmac de l'aéroport de la capitale polonaise. Il s'appelle Zdeněk Sobotka. Il décrit la situation à Tbilissi avant son départ.
On a vu circuler de nombreux chars, l'armée est partout. On a entendu des explosions au loin. C'est très désagréable, mais nous n'avons jamais été en danger et il ne nous est rien arrivé.
Et ajoutons pour finir que Prague a recommandé à tous les citoyens tchèques de ne pas rester en Géorgie dans la mesure du possible. On termine avec un sujet plus léger et de la photo. Dominique Degnaud est photographe. Il expose ses clichés à Konstantinovy Lázně, une petite station thermale dans la région de Plzeň. Ce n'est pas la première fois qu'il vient en République tchèque. Son expo est l'occasion d'évoquer également les liens qui unissent la ville de Bohême du Sud, České Budějovice, à la ville de Lorient, en Bretagne, où il vit. On l'écoute tout de suite.
Je présente une exposition qui s'appelle « Fragments, territoire imaginaire ». Donc, il s'agit de détails de matière plastique. Que le cadrage est très serré. Ce sont des photographies qui sont assez proches de la peinture, de l'abstraction, qui sont mes principales sources d'inspiration. Donc là, c'est vraiment un travail sur la matière plastique, notamment sur les balles de foin, qu'on appelle les randballers.
Et alors, comment un photographe qui habite en Bretagne se retrouve-t-il à exposer à Konstantinovy Lázně? Est-ce que vous pourriez un petit peu me parler de votre lien à la République tchèque?
La ville où j'habite, donc Lorient, est jumelée avec České Budějovice, en Bohême du Sud. Et dans cette ville, il y a une alliance française. Et en 2006, j'ai été invité à exposer une partie de mon travail qui s'appelle « La peau de la mer », une exposition que j'ai conçue avec un écrivain breton. Et donc en avril, nous sommes venus présenter ce travail-là avec d'autres. Il y avait aussi un sculpteur, il y avait des musiciens de Bretagne. C'est une manifestation qui a lieu tous les ans à la même époque en avril, qui s'appelle Journée française. Donc deux mois après, en juin 2006, je suis revenu faire un reportage photo avec un groupe d'enfants handicapés de la région de Lorient qui viennent tous les deux ans à České Budějovice parce que là-bas, il y a aussi un centre de rééducation fonctionnelle qui est lui aussi jumelé avec le même centre à côté de Lorient.
Et en quoi consistait ce séjour, justement?
Pour eux, c'est vraiment une prise de... Ce sont un petit peu des vacances aussi, hein. Parce que toute l'année, ils correspondent avec leurs jeunes homologues du centre Arpida. Ça s'appelle Arpida à České Budějovice. Et ce voyage est un peu l'aboutissement de tous leurs contacts tout au long de l'année. Et pour prolonger sur mon troisième séjour, ce troisième séjour, là, c'était vraiment des vacances l'année dernière dans la région de Pilsen. Et on a découvert la petite station thermale là, de Konstantinovy Lázně avec mon épouse.
Où vous vous trouvez aujourd'hui pour votre exposition?
Où je me trouve aujourd'hui, exactement. Et on a noué un contact avec la personne qui s'occupe des expositions et de l'office de tourisme. Et puis ce contact est devenu un échange depuis un an. Et puis ça aboutit à l'invitation pour exposer cet été.
Et alors, a priori, à part ce projet d'exposition-là, est-ce que à l'avenir, vous travaillez déjà à d'autres projets d'exposition en République tchèque en particulier, ou alors de projets photographiques, réalisés en République tchèque et exposés en France?
Oui, je vais faire ça. Oui, je vais profiter là des deux semaines que je vais passer ici pour faire non pas un reportage, mais je vais essayer de faire quelque chose autour des stations thermales du Bohême du Nord, Bohême de l'Ouest et peut-être un peu en Moravie aussi. et je vais sûrement les exposer dans un an à peu près dans une médiathèque à Lorient.
C'était le photographe Dominique Degnaud interrogé par Anna Kubishta et c'est déjà la fin de ces faits et événements. Surtout restez à l'écoute, dans une poignée de secondes, on parle sport et Jeux Olympiques.
Sport en République tchèque.
Guillaume Narguet.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de cette nouvelle rubrique sportive entièrement consacrée, comme vous vous en doutez, aux Jeux Olympiques. Des Jeux Olympiques qui ont démarré en fanfare pour les Tchèques avec deux médailles d'or obtenues lors des deux premières journées de compétition. Samedi, c'est d'abord Kateřina Emons qui a été sacrée championne olympique du tir à la carabine à 10 mètres. Elle a été imitée dimanche, toujours en tir, par David Kostelecki, vainqueur lui de l'épreuve de trappe. C'est donc à une Tchèque que la toute première médaille d'or de ces 29e Jeux Olympiques a été attribuée. Quelques heures à peine après que se soit achevée la cérémonie d'ouverture, Kateřina Emons s'est imposée dans l'épreuve du tir à la carabine à 10 mètres. La Tchèque, qui porte le nom de son mari américain, sacré lui à Athènes en 2004, a d'abord remporté la qualification en égalant le record du monde avec un total de 400 points sur 400 possibles. Elle a ensuite conservé son avance lors de la finale et terminé avec un total de 503,5 points qui constitue un nouveau record olympique. Sur le podium, Kateřina Emons a devancé la Russe Lyubov Galkina et la Croate Snezana Pečić. Faisant la course en tête, la Tchèque a toujours semblé maître de son sujet. Pour autant, tout ne fut pas si simple comme elle l'a expliqué.
Difficile, oui, ça a été un des concours les plus difficiles de ma carrière. Quand je me suis présentée pour tirer, j'ai commencé à être très nerveuse. Et je ne me sentais pas vraiment du mieux possible. Je me suis alors dit de ne pas trop penser au contexte, de faire abstraction de tout ce qu'il y avait autour. J'ai donc tiré sans calculer et les points se sont accumulés.
Il y a 4 ans, à Athènes, Kateřina Emons, qui portait alors encore son nom de jeune fille, Kurkova, avait déjà remporté une médaille de bronze dans la même discipline. Mais elle était rentrée de Grèce avec un autre trophée en poche, puisque l'Américain Matthew Emons, champion olympique en titre à la carabine en position couchée, était devenu son mari quelques temps plus tard. À 24 ans seulement, la Tchèque, qui était la plus jeune finaliste en Chine, et dont le père entraîneur a lui aussi été double champion du monde, présente donc déjà un copieux palmarès avec notamment un titre de championne du monde et un autre de championne d'Europe. Un palmarès qui pourrait encore s'épaissir d'un podium dans l'épreuve de tir à 50 mètres, 3 positions, et ce sans compter un éventuel succès de son mari. Toujours en tir, mais en trappe cette fois, discipline également appelée fausse, un autre Tchèque a donc été sacré champion olympique dimanche. À égalité de points à l'issue des qualifications, David Kostelecki a lui aussi signé un sans faute en finale, en touchant tous les plateaux, malgré la pluie torrentielle qui tombait sur la capitale chinoise. Avec un total de 146 points, il a devancé l'Italien Giovanni Pelliello et le Russe Alexei Alipov. À 33 ans, David Kostelecki a donc réalisé la plus belle performance de sa carrière. Le rêve de ma vie, a-t-il même affirmé.
J'avais confiance en moi, je savais que j'allais bien tirer car je me sentais libéré, calme, tout à fait bien. Mais bon, je pense qu'atteindre les 25 plateaux en finale olympique est une performance qui ne se reverra pas de sitôt, en plus dans les conditions dans lesquelles s'est disputé le concours. Je pense que c'est avant tout une question de mental. À vrai dire, je ne sais même pas encore qui s'est classé deuxième et troisième, mais je n'ai pas trop eu le temps d'y réfléchir.
Et grâce à cette deuxième médaille d'or, la République tchèque figurait à la quatrième place au classement par pays à l'issue de la deuxième journée de compétition. Dans les autres sports, aucune autre médaille n'est venue compléter ce tableau provisoire. En cyclisme, Roman Kreuziger a terminé 45e de l'épreuve en ligne remportée samedi par l'Espagnol Samuel Sanchez. Le Tchèque 13e du dernier Tour de France a pourtant longtemps figuré, jusqu'à 3 tours de l'arrivée, dans un groupe de 24 échappés dans lequel se trouvait également Carlos Sastre, récent vainqueur de la Grande Boucle. À l'arrivée, Roman Kreuziger a toutefois reconnu qu'il n'avait pas, je cite, « les jambes pour viser un podium ». En basketball, après une lourde défaite de 40 points, 57 à 97, subie contre les États-Unis pour son entrée en matière, l'équipe féminine tchèque s'est reprise lundi en disposant facilement du Mali, 81 à 47. La seule équipe tchèque en compétition à Pékin dans les sports collectifs conserve donc toutes ses chances de qualification pour les quarts de finale. Enfin, en tennis, dans le tableau féminin, nouvelle grosse déception pour Nicole Vaidicheva, qui a été éliminée dès le premier tour par la Française Alizé Cornet, tête de série numéro 15, en 3-7, 6-4, 1-6, 4-6. En revanche, chez les hommes, Tomáš Berdych s'est facilement qualifié pour le deuxième tour.
Merci à Guillaume Narguet pour cette revue complète des performances tchèques à Pékin. Tout de suite, musique.
Un peu de musique quand même. Václav Richter.
La musique tchèque de la première moitié du XVIIIe siècle serait bien appauvrie sans František Václav Mica, compositeur qui n'a vécu que 50 ans, mais qui a laissé une trace ineffaçable dans la vie musicale tchèque. Il est né en 1694 à Třebíč en Moravie, dans la famille d'un organiste. Talent précoce, il entre dans un orchestre de Vienne déjà à l'âge de 17 ans. C'est à Vienne qu'il fait aussi ses études musicales. Pendant toute sa vie, il est au service du comte de Kestenberg. En 1722, il devient chef d'orchestre et à l'âge de 29 ans, il se met à composer. Il compose beaucoup pour la cour impériale de Vienne. Il laissera à la postérité oratorio, cantate, symphonie, quatuor. Son style est proche de celui du compositeur italien Domenico Caldara. C'est dans le style italien qu'il compose aussi l'opéra L'origine di Jaroměřice in Moravia, son seul œuvre lyrique, qui est aussi probablement le premier opéra tchèque. Le livret raconte une légende sur la fondation de la ville et du château de Jaroměřice. Ce grand château, qui est une merveille de l'art baroque, appartient aussi au comte de Kestenberg, et c'est chez lui que František Václav Mica passera une grande partie de son existence et y restera jusqu'à sa mort en 1744. Il y sera chef d'orchestre, compositeur, organiste et brillant animateur de la vie musicale. On pourrait penser que Mica était trop sous l'emprise du style italien, mais il faut lui rendre justice car il ne manquait pas non plus d'une certaine originalité. Dans sa symphonie en ré majeur, découverte en 1936 par exemple, on décèle déjà les premiers signes caractéristiques de la forme sonate. Son œuvre la plus connue restera cependant son opéra sur l'origine de Jaroměřice. Voici un peu de musique de cette œuvre qui a été donnée pour la première fois au château de Jaroměřice en 1730. Thank you. C'était un extrait de l'opéra L'origine de Jaromír Jiřín Moravia de František Václav Miča. Merci d'avoir suivi cette émission qui vous a été proposée par Václav Richter.
Et c'est sur cette belle musique que s'achève le programme en français de Radio Prague. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.